Bonjour, alors nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission où nous accueillons Marie Barral-Baron. Marie Barral-Baron est maître de conférences à l'Université de Franche-Comté où elle enseigne l'histoire moderne. Dans le dernier numéro de Codex, elle a pris en charge le cahier pédagogique sur les hommes de la Renaissance. Et Marie Barral-Baron est également spécialiste d'Érasme. Elle a écrit « L'enfer d'Érasme, l'humaniste chrétien face à l'histoire » aux éditions Droz. Et c'est justement ce personnage fascinant qu'elle va nous faire découvrir aujourd'hui. Bonjour Marie Barral-Baron.
Bonjour Priscille.
Alors, qui était Érasme? D'où vient-il cet homme célèbre?
Alors Érasme, effectivement, ce qui est un des hommes les plus célèbres de la Renaissance, a des origines en fait extrêmement obscures. Il est né sans doute en 1467, mais il a tout fait, toute sa vie, volontairement, pour cacher ses origines, parce qu'elles sont honteuses, illégitimes. C'est un enfant en fait bâtard, c'est-à-dire qu'il est né fils d'un prêtre et d'une jeune femme. On sait simplement qu'elle était une fille d'un médecin. Il est né donc à Rotterdam, dans donc des situations extrêmement infamantes. Et très rapidement, ses parents vont décéder de la peste et il va être confié avec son grand frère à des tuteurs qui vont s'empresser de le dépouiller de toute sa fortune et le placer avec son frère dans un couvent dans lequel il est extrêmement malheureux. Parce qu'Erasme n'est absolument pas fait pour les ordres monastiques. Il déteste, comme il le dit, vivre selon la cloche. Et il va, en fait, pour survivre dans cet univers qui lui est hostile, il va vivre dans la bibliothèque du couvent. Et c'est là, dit-il, qu'il va découvrir en fait le souffle de l'humanisme en lisant la Bible, bien sûr, mais aussi des œuvres de l'Antiquité païenne, comme Platon, Aristote, Suétone. Et il comprend qu'il est fait pour ça. Et pas du tout pour être prêtre. Alors néanmoins, il devient prêtre en 1492 et ensuite il va saisir l'occasion où on demande un secrétaire du couvent pour faire une petite excursion en Italie. Il va se proposer, ses supérieurs vont accepter qu'il quitte le couvent et il va en fait s'enfuir, dire qu'il n'y reviendra jamais. Et c'est là que le destin d'Érasme va commencer.
Et alors justement, comment est-ce qu'il devient célèbre?
Alors, il devient célèbre précisément parce qu'en sortant de ce couvent, donc il sait ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il veut revenir au texte de l'Antiquité païenne et du christianisme. Et son idée extrêmement originale va être en fait de réécrire, enfin de proposer une vulgate de Saint Jérôme, nettoyée des scories qui se sont accumulées au fil des siècles.
Alors, une vulgate, qu'est-ce que...
Alors, la vulgate, en fait, c'est le texte du Nouveau Testament, tout simplement. Il considère qu'en fait la parole révélée du Christ a été abîmée au fil des siècles par les scribes et qu'en réalité les fidèles du XVIe siècle n'ont pas accès à la véritable parole de Jésus. Et donc son idée, et c'est complètement révolutionnaire, c'est d'appliquer au texte sacré, donc révélé, les techniques qu'on applique au texte littéraire. C'est-à-dire qu'on va, les nettoyer des scories. Il va toucher à la parole révélée, ce qu'on n'a jamais fait avant lui. Donc il va nettoyer entièrement ce texte et en 1516, il publie ce fameux Nouveau Testament qui est une véritable bombe dans le monde chrétien puisqu'il propose pour la première fois cette parole nettoyée. Et puis, alors ça va lui donner une réputation extraordinaire dans l'Europe du XVIe, qui est précisément à ce moment-là touchée par le courant de la Renaissance. Et en parallèle, il va publier tous les grands auteurs de l'Antiquité. Hein. Il a publié, je dirais, plus que Victor Hugo. Hein. C'est un corpus gigantesque, aussi bien d'auteurs païens que d'auteurs chrétiens. Et il va devenir, de ce fait, le prince des humanistes. Il passe sa vie à écrire et à traduire.
Alors justement, vous parlez de prince des humanistes, c'est que Érasme n'était pas tout seul à son époque, il arrive vraiment dans tout un réseau. Avec qui est-ce qu'il travaille, avec qui est-ce qu'il correspond?
Alors effectivement, il est au centre, en fait, il faut bien comprendre qu'il est au centre de ce qu'on appelle une république des lettres. À partir de 1521, il s'installe à Bâle, dans l'atelier de son imprimeur Johann Froben, parce qu'il veut être auprès de tous ses livres, il veut voir, hein, il dit que ce sont ses enfants, il veut les voir sortir des presses d'imprimerie, mais en permanence, il tient une correspondance, donc il envoie des lettres, il en reçoit, encore aujourd'hui, on en conserve plus de 8000, parce que de lui-même, de son vivant, il va publier ses propres lettres. Et donc, il travaille en permanence avec, je dirais, tous les grands savants de l'époque, les grands érudits, aussi bien en Angleterre, bien sûr, avec Thomas More, mais aussi en Pologne, je pense à Tomicki, qui est un des grands savants polonais qui est à Cracovie à l'époque, mais aussi... En Italie, il va aller rencontrer Aldè Manucci, le grand imprimeur de l'époque. On pourrait citer aussi qu'est-ce que je pourrais citer comme autre pays en Espagne ou au Portugal avec Vives. Enfin bref, tous les plus grands noms de l'humanisme de l'époque sont en correspondance avec Erasme. Je pense encore à Budet en France, Lefèvre d'Étaples, et puis tous les grands souverains, hein, François Ier, voilà, tous les grands du temps, soit François Ier, Charles Quint, Henri VIII, Marguerite de Navarre, tous ces gens vont correspondre avec Erasme.
Alors ce qu'il faut retenir du coup, c'est que c'est une personnalité à l'échelle de l'Europe, vraiment.
Complètement. C'est d'ailleurs, c'est pas par hasard que le programme s'appelle aujourd'hui le programme Erasmus, parce qu'il était effectivement au centre de l'Europe et lui-même se définissait comme un citoyen européen. C'est-à-dire qu'il dit, je n'ai pas... Alors c'est lié d'ailleurs à ses origines que je vous ai exposées tout à l'heure. Hein. Il dit, je n'ai pas de lieu de naissance. J'appartiens à l'Europe, je suis citoyen du monde. Et il va vivre aussi bien à Paris qu'à Venise, bien sûr qu'en Angleterre, à Londres, et ensuite choisir la ville de Bâle du fait de son imprimeur attitré. Mais il ne va jamais cesser de voyager.
Alors, si Erasme a beaucoup écrit, je sais que vous insistez beaucoup sur le fait que ce n'est pas seulement un homme de papier, que les humanistes sont aussi des êtres de chair et de sang. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, c'est-à-dire que l'historiographie a eu tendance toujours à présenter Erasme comme un pur esprit, c'est-à-dire un grand théologien, un immense érudit, qui passerait un peu sa vie dans une tour d'ivoire à l'abri de tous les violences du temps. Et en fait, il me semble que c'est absolument pas le cas. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail en l'intitulant L'enfer d'Erasme, parce que précisément Erasme a vécu dans une période extrêmement tourmentée et qu'il a extrêmement bouleversé. Le XVIe siècle, c'est notamment la période de la Réforme, la période des guerres de religion, et Erasme, comme ses contemporains érudits, vont être extrêmement atteints par les violences du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout les imaginer comme des intellectuels qui seraient uniquement versés dans la théologie. Ce sont des hommes qui souffrent terriblement de l'actualité et qui sont bouleversés par la division du monde chrétien et puis aussi par les guerres, hein, qui se multiplient en leur temps. Erasme notamment va assister à la décapitation de Thomas More, qui est quand même son non seulement son plus grand ami, mais qui en plus est mis à mort par Henri VIII, qui avait été choisi par Thomas More et Erasme au début de la décennie 1510 comme le roi de l'humanisme, comme le roi de l'âge d'or. C'est-à-dire que Erasme et Thomas More considéraient qu'Henri VIII était le roi qui allait permettre l'épanouissement de l'humanisme. Et précisément, c'est lui qui va sonner glas d'une certaine idée de l'humanisme. Donc, sont des hommes qui souffrent, en fait, terriblement.
Avec une grosse déception.
Avec une énorme déception, puisque finalement tout ce grand courant humanisme de retour au texte, il n'est pas gratuit. Hein. L'idée derrière d'Erasme, c'est il s'adresse à chacun d'entre nous, à tous les fidèles, en leur disant voilà, revenez au texte de l'Antiquité, donc à Platon, etc. Revenez au texte du Christ, parce que comme ça, eh bien, vous serez de parfaits soldats du Christ et vous allez pouvoir vivre un christianisme qui vous libère de l'angoisse. Hein, on est au moment de Luther, qui vous libère de l'angoisse, qui vous libère de la peur de la mort. Et c'est finalement cette foi à la fois chrétienne et païenne qui va vous permettre de mieux vivre votre vie aujourd'hui. Et c'est une grande déception. Oui, Erasme, en son temps, il vit une véritable tragédie parce qu'il voit l'échec en fait, de ce message.
Et alors justement, par rapport à Luther, ils entretiennent des relations un peu particulières.
Oui, des relations très très complexes, parce que Luther est un petit peu plus jeune que Erasme. Il lui écrit relativement tôt, avant d'être très célèbre, et où il a lu en fait le Nouveau Testament. Hein, Luther a lu le Nouveau Testament d'Erasme, publié en 1516, et il a observé quelques erreurs théologiques. Donc il écrit à Erasme pour les lui signaler. Erasme le prend quand même très mal, parce qu'il du coup, se considère à l'époque quand même comme le plus grand savant, et qu'un tout petit moine inconnu de Saxe ose venir lui dire qu'il s'est trompé, et il trouve ça absolument absolument scandaleux. Donc, il ne daigne même pas lui répondre. Et puis, donc, rapidement, en fait, les relations vont s'envenimer. Erasme va d'abord prendre la défense de Luther en disant, il faut se calmer, il faut essayer de comprendre cet homme, qu'est-ce qu'il veut nous dire, il veut réformer l'Église et il faut le comprendre. Et Luther va progressivement, c'est un peu de son côté hein, que la violence vient, parce que ce sont vraiment deux hommes très, très profondément différents. Il va commencer à insulter. Il y a beaucoup, beaucoup d'invectives de Luther contre Erasme. Et donc, les relations vont s'envenimer terriblement au cours des années 1520. C'est une relation tragique, en fait, Erasme et Luther. Hein. C'est vraiment deux hommes qui croyaient pouvoir se comprendre et qui découvrent, en fait, qu'ils n'ont pas la même conception du christianisme. Et donc, il y a une espèce de divorce très violent, très profond entre eux. Et bon, le moment où il est célèbre, hein, le plus fort de la division, c'est le conflit en 1524-1525 entre du libre-arbitre et du serf-arbitre, hein, qui est la grande confrontation théologique entre ces deux hommes. Et après, en fait, ils ne se parleront absolument plus.
Donc l'un sort de l'Église et l'autre y reste.
Voilà, Erasme ne sortira jamais du catholicisme. Et ça, c'est aussi une des raisons de leur incompréhension. Parce qu'il faut bien voir que Erasme, par son message de toucher au texte sacré, de critiquer aussi les pères de l'Église, hein, la patristique, c'est évident qu'il a ouvert la voie à Luther, mais pas simplement à Luther. C'est-à-dire que Erasme a préparé les grands esprits de son temps à comprendre le message de Luther. Et donc, quand Luther affirme ses 95 thèses en 1517, et puis par la suite, en 1521, tous ses grands textes réformateurs, il faut bien comprendre que, donc pour Erasme, il va beaucoup trop loin. Il est d'accord avec lui sur le fond, mais on doit faire tout ça en restant dans le giron du christianisme traditionnel. Et d'autre part, la violence qui est faite à Erasme, c'est que tous ces érudits qui l'accompagnaient jusqu'à présent, je pense par exemple à Wolfgang Capiton, à Ocolampade, tous ces hommes qui étaient vraiment les compagnons au jour le jour hein, avec Erasme, qui travaillaient avec lui dans l'officine de Froben, qui traduisaient les textes avec lui et qui étaient baignés par cette pensée erasmienne, quand Luther propose son message, ils sont tout de suite convaincus, parce que Erasme les a préparés à adhérer au message luthérien. Et donc, ils vont passer au luthéranisme. Et pour Erasme, c'est à chaque fois, des petites morts, parce qu'ils vont en fait tous ses camarades partir vers son ennemi. Et tous ces hommes lui disent, enfin, qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi tu ne nous rejoins pas ? C'est toi-même qui nous a permis de comprendre Luther, donc tu devrais être le premier à venir. Donc, la grande difficulté pour Erasme, c'est qu'il est considéré comme un traître par les luthériens parce qu'il n'ose pas venir. Et puis les catholiques lui jettent aussi l'opprobre parce qu'ils considèrent qu'il est bien responsable des malheurs du temps. Donc c'est une situation très, très complexe pour lui.
Alors Erasme s'intéresse à beaucoup de sujets, il n'y a pas seulement même des sujets religieux. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez donner quelques-unes de ces grandes idées ou de ces réflexions qui peuvent être intéressantes?
Alors, oui, effectivement, il ne s'intéresse pas effectivement qu'à la religion, même si derrière, il y a toujours cette idée de faire de chaque fidèle un meilleur sujet de Jésus-Christ. Alors, il y a donc effectivement ces textes exégétiques, théologiques qu'on a pu évoquer. Après, il y a un très gros corpus d'Erasme qui est souvent moins connu, qui concerne tout ce qu'on appelle des colloques, qui sont en fait des petites historiettes, souvent très, très drôles, d'ailleurs dans lesquelles Rabelais a totalement puisé, hein, si vous connaissez Pantagruel, toutes ces figures sont déjà dans les colloques erasmiens et qui sont des petites histoires voilà, avec des protagonistes dans lesquels d'ailleurs souvent on reconnaît Erasme et qui lui permettent de critiquer des aspects du temps. Donc par exemple le mariage, il considère que c'est une institution qui est datée et qu'on devrait permettre le divorce. Donc voilà, il raconte des mauvais mariés pour essayer de défendre la thèse derrière que l'Église doit permettre le divorce. Sur les pèlerinages aussi, parce qu'il considère que c'est insensé de partir au bout du monde pour un pèlerinage en abandonnant sa famille et en les laissant finalement affronter tous les dangers. Donc voilà, il y a énormément de petites historiettes comme ça, mais très, souvent très cruelles et extrêmement drôles. On a un autre corpus qui s'appelle les adages ou les apophthegmes. Erasme était extrêmement friand de proverbes. Il adorait les proverbes. Donc il a, dans tous les textes de l'Antiquité qu'il a traduits, il dégageait à chaque fois des petits proverbes qu'il notait et dont il donnait une explication. Donc, ce qui fait que les adages, on a aujourd'hui plus de 8000, hein, 8000 adages des races, qui ont été d'ailleurs publiés récemment, avec chaque fois donc, l'adage et l'explication qu'en donne Erasme. Il y a des adages très célèbres comme Festina lente, hein, il faut donner le temps au temps, on dirait, ou Dulce bellum in expertis, hein, la guerre est douce à ceux qui ne l'ont pas faite, voilà, et il explique, il donne des exemples à tous ces adages. Ensuite, on a des œuvres telles que l'éloge de la folie, sans doute la plus célèbre,
la fameuse,
avec Dame Folie, qui s'exprime, alors bien sûr c'est Erasme, mais il dit que c'est pas lui, et qui lui permet de critiquer tous ses contemporains, les uns après les autres, donc il prend des groupes, les professeurs, avec tout leur ridicule, les théologiens, les politiques, etc. Et c'est une œuvre qui est extrêmement d'actualité, on rit encore aujourd'hui tellement ça semble moderne. Et puis on peut aussi encore distinguer des œuvres qui sont plus politiques, parce qu'Erasme est aussi un politique, et je songe notamment à son Miroir du Prince, qu'il publie en 1516 pour Charles Quint, hein, ça s'appelle l'Institution du Prince Chrétien, dans lequel eh bien, il donne aussi des conseils à Charles Quint pour gouverner, et il lui décrit le prince parfait, voilà, idéal, voilà, à quoi il devrait ressembler et comment est-ce qu'on doit gouverner les hommes. Alors bien sûr, c'est l'anti-Machiavel.
Qu'est-ce qu'il donne comme conseil ?
Alors ben, ces conseils, la grande obsession des races déjà, c'est la paix. Donc le prince ne doit pas faire la guerre. Alors ça, il s'inscrit bien sûr dans une très longue tradition, hein, depuis, je dirais, Jean de Salisbury, Saint-Augustin, qui est que il est toujours, la paix est toujours préférable. Donc il faut préférer la paix la plus injuste à la plus juste des guerres. Et donc ça, c'est une des grandes théories des rats. Donc il lui explique que voilà, il ne faut absolument jamais, jamais faire la guerre. Il lui donne aussi des conseils. Il faut qu'il se montre à son peuple. Par exemple, ne pas rester caché dans ses palais. Hein, il doit s'exposer. Il doit rassurer. Comment est-ce qu'il doit dépenser son argent ? Enfin, il y a des chapitres sur la pauvreté. Il y a des chapitres où il s'inquiète, hein, de la conduite du prince, et il lui conseille aussi ses lectures. Qu'est-ce que doit lire un bon prince ? Donc il y a des œuvres historiques qu'il faut éviter. Il ne faut jamais, par exemple, prendre pour exemple Jules César ou Alexandre.
D'accord.
Et aller plutôt vers des œuvres... Mais en fait, je dirais que son prince, c'est un peu Jésus-Christ. Mais c'est voilà, une volonté, je dirais, d'introduire de l'amour des évangiles dans une politique du XVIe siècle qui en manque beaucoup, selon lui.
Et alors pour finir, Marie Barral-Baron, qu'est-ce qu'on garde d'Erasme aujourd'hui ? En quoi est-ce qu'il est encore important dans notre temps ?
Alors, je dirais qu'Erasme, c'est une pensée qui est étonnamment moderne. C'est vrai que je vous invite à lire Erasme, notamment l'Éloge de la folie, mais vous pouvez trouver les colloques ou beaucoup d'autres textes qui sont aujourd'hui traduits. Hein, l'Institution du Prince Chrétien vient juste d'être traduite aux belles lettres, là, au début de cette année 2017. Et on découvre, en fait, qu'Erasme a une pensée qui est extrêmement moderne. Extrêmement moderne, déjà, dans son rapport aux êtres humains. Il est dans cette idée de la perfectibilité, hein, que chaque individu peut s'améliorer. C'est cette grande phrase d'Erasme, on ne naît pas homme, on le devient. Donc déjà pour ça, je trouve qu'il est d'une extrême modernité, dans son rapport aux femmes aussi, hein, il était extrêmement exigeant sur ce point, il fallait absolument que les femmes soient éduquées, qu'elles soient instruites, dans sa proposition aussi, je pense à un exemple très concret des femmes, mais de l'allaitement maternel, hein, il défend, parce qu'il y a un corpus que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est le corpus pédagogique qui est fondamental chez Erasme, il y a beaucoup d'œuvres, le De Pueris de 1529, le De Ratione Studii, où précisément il explique comment on doit éduquer un enfant, hein, alors que lui n'a jamais eu d'enfant, hein, mais il explique précisément comment on éduque un enfant, comment progressivement on le nourrit du savoir, on lui donne une bouchée tous les jours, des bons auteurs, et que la mère doit s'occuper de l'enfant, le père aussi, mais la mère doit commencer par un attachement, par l'allaitement, et que la mère doit être capable, elle-même en étant cultivée, de lui transmettre des connaissances. Donc je dirais qu'il y a tout cet aspect-là où je le trouve, il est extrêmement moderne et toujours d'actualité. Et puis par rapport à l'histoire de l'Église, il est évident que tout le courant de Vatican II a profondément puisé dans les thématiques érasmiennes, dans cette idée d'ouvrir l'Église au monde moderne, d'être dans la capacité en fait d'accueillir aussi la diversité en son sein, et toujours d'insister sur le trésor des Évangiles, parce que je pense que c'est ça la grande idée d'Erasme, c'est ce qui est fondamental, vraiment, ce sont les Évangiles, et après il faut arriver à accepter la diversité humaine pour que ce trésor soit universellement partagé.
Eh bien, un grand merci Marie Barral-Baron. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez écrit le dernier cahier pédagogique de Codex qui était consacré aux hommes de la Renaissance. À très bientôt. Au revoir.